Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto proposé par Kikinkout et Toupal de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur l'autoroute de l'info www.campuslille.com. Aujourd'hui, balade, aventure, interview et pèlerinage, c'est le sommaire de cette émission. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec Aurélien et Julien, deux jeunes motards. Voilà, qui viennent juste de rentrer de leur premier pèlerinage ou périple sur l'île de Man pour assister à cette course mythique qu'est le Tourist Trophy. Julien, Aurélien, bonjour.
Salut.
Alors c'est une première, c'était une première pour vous?
Ouais.
Vous êtes jeune encore, hein, j'ai dit jeune motard.
Jeune, ouais. Hein, on peut dire qu'on est encore très jeune, on n'a pas encore 30 ans.
Donc jeune, ouais. Voilà. Donc une première là-bas, donc à l'île de Man. Tout de suite, en un mot, comment on pourrait qualifier donc ces 15 jours de moto, que de moto. Hein,
on va dire comme les Anglais, amazing.
Ah ouais.
Le mot qui est rien.
Waouh. Impressionnant.
Alors vous me dites que vous avez fait 3 fois le Mad Sunday là.
Ouais.
Mad Sunday, c'est tous les motards qui convergent là-bas sur l'île de Man et qui sont là-bas et on peut donc emprunter le parcours. Hein.
C'est ça.
En fait, donc il y a un morceau du tracé qui est la Mountain Road, voilà, la montagne qui est dans un sens,
sans limitation
de vitesse, voilà, sur tout ça. Alors attention, parce qu'il y a quand même les locaux qui la prennent en voiture, mais il y a aussi beaucoup de motos.
Il y a tout le monde alors sur
la piste. Il y a des mecs qui carsouillent
en plus, du lourd, ouais,
très fort,
et qui s'y croivent.
Exactement.
Ouais. D'accord. Donc avec quelle moto? Tu avais quoi comme moto?
Moi, je suis parti en 950 Adventure pour l'aspect, on va dire, les bagages qu'elle permet de prendre. Pardon. Voilà. Donc c'est pas fait pour ça, mais il y a quand même possibilité de s'amuser un petit peu. Quoi, voilà.
Ouais, vous avez voulu voir un peu comment était le circuit, peut-être, vous, c'est ça, un peu l'expérience et puis la curiosité aussi.
Ah oui, parce que là... C'est vraiment impressionnant, le circuit routier, il y a des bosses de partout, des plaques d'égout, on se demande comment ils font, mais vraiment comment ils font. J'ai vu une vidéo tout à l'heure encore de Michael Dunlop dans la partie de Selby, et la moto elle bouge dans tous les sens, c'est impressionnant.
Alors justement c'est intéressant de faire ce parcours, parce que bon, là comme tu dis, là, on se rend compte un petit peu des difficultés, un peu. C'est pas comme sur un circuit, hein, où c'est bien plat, il n'y a pas de plaques d'égout, rien du tout. Et justement on peut se poser la question, hein, comment ces gens peuvent rouler à une telle vitesse.
Ouais, nous aussi on se demande comment ils font. Je pense qu'on n'est pas tous séparés à ce niveau-là, c'est une certitude.
Voilà, très bien. On va parler de ça dans l'émission, hein. On a 2-3 sessions prévues. Notre autre sujet, eh bien, hier, nous avons eu la chance de faire une interview avec Johan Zarco, pilote Tech 3 en MotoGP, qui était de passage dans la région, hein, à Seclin. Bonjour Nico.
Bonjour les Michel.
C'est toi qui as fait l'interview.
Ouais, disons que c'est vrai que Zarco était présent à Seclin, on se devait d'y aller. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'était que depuis qu'il passe en MotoGP, sa notoriété a grandi et il est de plus en plus courtisé. Donc c'était compliqué de l'approcher. Mais avec la persévérance, on y arrive. Et puis c'était très intéressant parce qu'en fait... bien sûr, c'était organisé par Shark, hein, qui l'invitait, donc un de ses sponsors. C'était un petit peu côté foire commerciale avec des trucs à gagner, des choses comme ça pour les animations, la musique à fond. Mais entre temps, il y a eu quand même quelques belles séquences où il a pu s'exprimer et revenir sur sa carrière. Donc c'était intéressant parce qu'on apprenait des choses, comme par exemple que sa famille, il a de la famille du côté de sa mère sur Dunkerque, donc il connaît le Nord. Il a eu dans sa carrière plusieurs fois, par exemple, des courses qu'il a gagnées, mais pour lesquelles il a été déclassé. Ça a été dur d'avoir son premier podium et sa première course de gagner en 125. Et donc, il revient avec un petit peu d'amertume là-dessus, mais c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est son mental.
Alors, c'est là qu'on voit qu'avec un pilote, ça marche aussi au mental.
Ouais, c'est là où on s'aperçoit que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Et que lui, en fait, ça peut servir à tout le monde. Hein. C'est beau ce qu'il raconte parce que, par exemple, on se souvient au Qatar, la première année où il a été champion du monde en moto 2, première course, il perd son sélecteur après avoir gagné, enfin, la course tout entière. Et du coup, il finit cinquième un petit peu à l'arrache. Alors qu'il avait mené, il aurait pu dire, c'est pas juste, j'ai pas de bol, tout ça. Il a dit non, j'ai fait quasiment toute la course en tête, donc ça veut dire que je suis bon. Donc, y a rien à regretter, c'est un aléa de course. Et puis, la course après, il l'a gagné. Donc, il travaille beaucoup sur son mental. Et il nous l'a fait partager, donc c'était
intéressant. Il lâche rien en gros.
Il lâche rien et il regarde du bon côté à chaque fois.
Voilà. Ouais. Donc on a un interview exclusif de 5 minutes. On a réussi, nous aussi, on lâche rien.
Ouais, on a fait très court parce qu'il nous a fait un petit peu. C'est vrai que c'est une épreuve. Il a passé l'après-midi à signer des autographes en plein cagnard.
Quelque part, c'est aussi son travail.
Ouais, c'est son travail. Enfin, c'est le boulot pour avoir les sponsors. Mais c'est vrai qu'on se met à sa place. Donc on n'a pas voulu non plus. On a eu cette petite autorisation d'interviewer un petit peu à l'arrache. Donc on n'a pas voulu abuser et on a fait très court.
Voilà. Très bien, voilà. La suite du sommaire, eh bien, bientôt, tout à l'heure, nous allons avoir Bernard Cadard qui sera avec nous dans les studios. Et puis, une idée de balade parce que dans 15 jours, c'est les vacances, c'est juillet-août. Idée de balade. On vous propose de partir en Mayenne, faire d'une pierre deux coups, pour visiter cette magnifique région d'abord, la Mayenne. Et ensuite, le musée de Jean-Luc Guignard, situé à Montflour, à 15 km de Laval. On a quelques interviews, 7-8 minutes d'interviews de la visite de ce musée. Donc on vous proposera en fin d'émission. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Je suis de Mayenne.
Ben voilà, je suis la Mayennaise. Donc, effectivement, c'est une très belle région. Très belle.
Alors à 460 km de Lille, c'est pas encore très loin. On peut encore aller partir sur un week-end. Voilà. Pour le sommaire, c'est terminé et on dit bonjour à Laurent.
Bonjour, et on peut dire que la mayonnaise a pris. Hein.
Voilà, c'est top. We'll be right back. magazine de la moto, c'est sur Campus, tous les dimanches de 11h à 12h30. On revient donc sur cette rencontre hier à Seclin de Johann Zarco. Donc le personnage, il est tel qu'on on le voit à la télé, zen, hein, très très cool.
Exactement. Il est comme on l'imaginait. Enfin,
il s'énerve pas. Hein, il est resté 4 heures hein, là sur le podium hier. Hein.
Toujours assez serein, très posé, réfléchi, et puis quelqu'un de bon quoi. C'est quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un de.
Alors justement, on imagine mal un personnage comme ça sur la piste parce qu'il faut quand même être agressif sur la piste.
Ben, il est très agressif sur la piste et c'est ça qui est un petit peu impressionnant, c'est-à-dire que il a raconté pas mal d'anecdotes, dont une effectivement où il avait été déclassé pour un geste sur la piste. En fait, il avait mis son bras pour gêner un pilote qui le dépassait, mais c'était un geste désespéré parce qu'il avait pas la puissance.
Ça c'est pas non plus.
Et ça se fait pas. Mais c'était quasi un réflexe quoi. Il était tellement dans son truc, c'était quasi un réflexe. Et donc il a été déclassé de 15 places, c'est énorme. À la course suivante, en fonction de son temps, sa place sur la grille, il serait déplacé de 15 places. Et cette course, il avait fait 18e sur la grille de départ pour finir 3e sur le podium. Donc il s'est dit, il me déclasse de 15 places, c'est pas grave, il faut que je fasse 3e. Et puis ça me met dans la même position qu'aujourd'hui, donc c'est pas si grave. Et il l'a fait. Donc des choses comme ça quoi. Il a quand même un mental hors du commun. Et bon, c'est vrai que c'est un sportif de haut niveau. C'est vrai que il a une aisance pour parler également. Hein. C'est un communicant. Sans tirer toutes les ficelles, il communique et il donne un petit peu de ce qu'il est. Il se dévoile. Donc c'était sympa. Et nous, on essaie de lui poser des questions qu'on lui pose pas d'habitude. Des questions assez techniques.
Les questions que tu as posées là.
Oui, parce que je me suis
dit. Les pneus, parce qu'il roule en médium et il gagne des courses, mais il fait les temps, les pneus médium, mais les autres aussi.
Alors, oui, en fait, le truc, c'est qu'il a un pilotage. Il est très agressif, mais il a un pilotage qui permet aux pneus de tenir plus longtemps, donc il peut se permettre des pneus plus tendres que les autres. Et c'est ce qui a fait qu'il a été devant très vite en MotoGP, parce que tout le monde a des gommes dures pour essayer de durer, et lui, des gommes plus tendres, il arrive à finir la course avec. Donc, mais c'est l'avantage en début de course, puisqu'il a des gommes tendres, il chauffe plus vite, et il a des meilleures performances dès le départ.
Il est revenu sur la chute au Qatar, là, quand il était en tête, il est resté en tête 4 tours hein, au Qatar. Et justement, il nous a dit qu'éventuellement, s'il avait eu un pneu un peu plus dur, je crois.
Plus tendre.
Ou plus tendre.
Il avait mis un médium.
Ça serait pareil.
Un médium à l'avant, et il s'est dit, finalement, j'aurais dû mettre un soft. Mais après, il dit, avec des si, on en fait
et
tout.
Et avec des si, on fait le monde.
Donc c'est pas la peine de se mettre. C'est fait, quoi. Mais voilà.
Et après, tu poses aussi la question. Hein, tableau de bord, c'est sur ces motos-là, il y a plein d'indications. Non, tu peux modifier plein de. La cartographie, il y a plein de choses à modifier.
On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Nous, on a des motos du commerce. Et donc, on ne sait pas trop les indications qu'ils ont au tableau de bord, parce qu'on voit toujours le panneautage. Mais moi, je me dis pourquoi ils n'ont pas leur temps sur le tableau de bord. Et donc, des choses comme ça. Donc, j'essaie de savoir des choses qu'on ne sait pas autrement. Les cartographies, il y a des cartographies pour aider lorsque les pneus commencent à s'user, pour adapter un petit peu, que ça soit moins agressif et que ça tourne quand même. Ça, c'est pareil, on ne sait pas. Donc, on en a profité pour poser ce genre de questions.
Très bien, et bien, on écoute ça.
On s'est rendu compte que tu avais une botte secrète, c'était des pneus tendres. Ton pilotage permet d'utiliser des pneus tendres. Mais par contre, le week-end dernier en Catalogne, c'était comme toutes les autres IMA, en médium. Et malgré tout, t'as réitéré ta performance d'Argentine, puis un cinquième en partant de la 14e place. Et c'est vrai que devant Jonas, encore une fois. Et donc t'as trouvé du feeling avec des pneus plus durs, en fait.
Pas forcément, simplement la Catalogne, c'était un circuit très délicat où l'usure des pneus était extrême. Et donc. Et donc cette option médium, en fait en soft on n'aurait jamais fait la course, on aurait galéré à mi-course et on serait arrivé très très loin. Et là, j'arrive à utiliser le soft parce que je consomme moins les pneus. Et comme le problème là c'était la consommation des pneus, et bien finalement, à même monture, les autres ont consommé leurs pneus peut-être à mi-course. Et moi c'est qu'aux 3/4 de course que j'ai commencé à avoir de la baisse. Donc c'est ça qui a fait cette différence pour Barcelone.
Ouais. Et on a l'impression bizarre que d'un circuit à l'autre, les Michelin fonctionnent mieux pour une moto que pour une autre. Tu ressens ça aussi?
J'ai pas encore analysé, parce que je suis tête baissée, je fonce. Après, c'est vrai que sur la performance, l'Honda était très forte à Barcelone, mais pourtant en course, si j'étais parti à une meilleure place, j'aurais pu être sur le podium. Donc, des fois, on a ces visions-là tout au long des essais, mais après la course, c'est vraiment une autre situation et on se rend compte de plein de choses.
Et nous, on connaît pas trop la MotoGP, on sait pas ce que tu as sur le tableau de bord, les indications de course que tu as sur le tableau de bord. Tu es un petit peu comme les Alfano, tu as ton dernier temps, tu as des choses comme ça sur ton Alfano.
C'est au choix du pilote, on peut avoir le chrono chaque tour. Souvent, la majorité des pilotes utilisent ça pour voir où ils en sont au bout d'un tour, savoir s'ils sont réguliers ou pas. On peut même diviser ce tour en partiel, mais bon, regardez les partiels quand on roule, moi j'ai jamais fait, mais voilà, on peut avoir ces infos là et après on aura des infos surtout savoir sur quelle option on est d'électronique, quelle map d'accélération et quelle map de frein moteur on utilise. On en a trois de chaque et c'est ça, de savoir où on en est. Il y a aussi le rapport engagé, mais là pareil, en général on regarde pas, on sait où on en est parce qu'on compte tout. Et voilà, peu d'informations. Et maintenant, il y a quand même le boîtier qui est développé avec la direction de course. En cas de drapeau rouge, drapeau noir, il nous l'affiche même sur le tableau de bord.
Et justement, les maps pour essayer de compenser un petit peu l'usure des pneus, c'est pour tout le monde pareil ? C'est les mêmes maps pour tout le monde ?
C'est ce boîtier électronique unique qui donc c'est pareil pour tout le monde. Après, tout le monde n'a pas le même réglage et c'est là où on peut faire la différence, où il y a énormément de points d'options à avoir et on peut s'y perdre. Après, quand on a une équipe qui tient la route, on arrive à l'utiliser vraiment comme un outil et non pas comme une option où on peut s'y perdre. Mais c'est la même chose au départ pour tout le monde, mais après là, plus personne n'a la même chose vu qu'on chacun touche un peu dans sa direction.
D'accord. Et pour finir, merci de nous avoir répondu. On se demande juste avec quel pilote t'as le plus d'affinité.
Ah, j'aime bien tous les pilotes, hein, vraiment. On se respecte entre nous beaucoup. Et un qu'on va pouvoir déconner, ça sera Miller, qui est très déconneur. Après, un Vignales aussi très bonne entente parce qu'il est tout jeune et donc un super esprit. Puis Pedroza Marquez, moi je les admire, mais c'est donc on se respecte beaucoup. Valentino, ça fait toujours l'effet fan, mais lui, difficile d'avoir de l'affinité parce que ben, il est ultra occupé et il est vraiment, on le voit rarement dehors. Non, il y a plein de pilotes et on se respecte tous, mais voilà. Si on veut déconner, je conseille de rigoler avec Miller.
Un grand merci, John. Ouais, tu nous régales. Hein. Chaque week-end, c'est wow.
Ben merci de faire vibrer la moto et au moins d'en parler sur cette radio.
Merci bien. Choose up the days of old, cause they ain't ever coming back. One that walked away, so baby, why are you so mad? Why won't you let me be? We'll be right back.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez là, les jeunes, de Zarco? Allez-y, hein, faut vous réveiller là. Vous avez fait la fête hier soir, quoi, là?
Non, il est fort, il est fort. On espère que ça va.
Vous suivez
continuer.
Quand même les courses, le championnat?
Oui.
Un petit peu quand même.
On essaie de regarder. Sans pompe.
Non, si, c'est impressionnant ce qu'il fait depuis le début de la saison. Il nous en met plein la tronche.
Vous ne pouvez pas imaginer ça quand même en début de saison. Là. On s'est dit, il va finir dans le top 10 à peu près. Hein. Nico
Oui, on se disait nouvelle moto deux fois plus puissante, des nouveaux pneus Michelin qu'il ne connaît pas. Toutes les histoires de cartographie, de réglages dans lesquels on peut se paumer comme on veut.
Je suis convaincu parce que dans l'interview, enfin, on ne le ressent pas, mais qu'il ne connaît pas encore tout à fait tout le.
Non,
les possibilités d'une MotoGP.
Il a fait allusion, il a une bonne équipe, il s'appuie sur une bonne équipe. Et c'est vrai que Tech 3 avec Guy Coulon, qui est un des meilleurs, et Poncharal, qui est quelqu'un de très humain et qui s'est encadré pour éviter le stress, même s'il prend sur lui.
Il paraît qu'il dort plus.
Poncharal, il prend le stress des autres et il prend sur lui.
C'est un mec à 60 ans, on va faire attention.
Mais en même temps, ça fait des années qu'il est comme ça et c'est son fonctionnement. Et puis voilà. Donc la suite des aventures de Jeanne Zarco, ça sera le week-end prochain à Assen.
Attention, la course du dimanche maintenant, c'est plus le samedi pendant des années. D'ailleurs, je sais pas, depuis le début du championnat du monde, ça a toujours été le samedi.
Oui, depuis 2 ans.
Et vous savez pourquoi le samedi? Vous savez pourquoi?
Ah, parce que c'était l'heure de la messe.
Parce que voilà, en Hollande, on n'avait pas le droit de faire des preuves sportives le dimanche, parce que justement...
C'est même pire que ça, il y avait une église qui était sur le parcours du... Enfin, historiquement, qui était sur le parcours du circuit. Donc pour pas gêner la messe dominicale, il fallait donc qu'on faisait la course le samedi, pour pas tout mélanger.
Voilà. Là il n'y a plus d'église.
Non, le circuit a évolué.
C'était resté le samedi.
Ouais, et là au bout d'un moment, je pense qu'il y a eu les droits de télé, il y a eu des choses comme ça, et on leur a dit bon, faut rentrer dans le roi. Mais c'est dommage parce que pour nous c'était pas mal pour aller à Essen parce que ça nous permettait d'avoir le dimanche pour rentrer tranquillement.
Tranquillou, ouais.
Et puis d'en profiter le samedi, pas trop loin, donc c'était jouable. Et maintenant le dimanche, pour rentrer, il y a 450 bornes à faire. Il faut y aller.
Moi, tu sais, Nico, je connais quelqu'un qui, il y a longtemps, très longtemps, qui est parti le samedi pour en croyant que la course était le dimanche. Et c'est curieux parce qu'il croisait des milliers de motards sur le tour en face. Et c'est quand même curieux.
Je me suis trompé.
Et lui, il s'arrête pour regarder la route. C'est bien la route pourtant pour la scène. Et arrivé là-bas, il s'est rendu compte que le Grand Prix, c'était terminé. Véridique.
Ouais. Il y en a un aussi qui s'est trompé de Silverstone, non?
Oui, qui a fait pas mal de bornes en plus. Voilà. Voilà. Donc on va terminer un petit peu sur la partie MotoGP Grand Prix. On va revenir. Tiens, j'ai vu que dans la presse que Triumph allait remplacer les moteurs Honda. Donc en 2019.
Oui, sur les Moto 2. Donc en Moto 2, on a tous le même moteur. C'est un moteur Honda qui n'existe plus dans la gamme. Donc il fallait réagir. En même temps, ce moteur, il est sans aucune électronique et les organisateurs voudraient qu'il y ait un petit peu d'électronique pour habituer les gens, puisqu'en MotoGP ils vont devoir gérer ça. Donc ils ont choisi le moteur Triumph, alors le tout dernier, c'est pas le 675, c'est le 765.
Trois cylindres.
Et qui sera donc à partir de 2019, c'est pas pour tout de suite. L'an dernier, on est encore avec les vieux moteurs Honda, et puis en 2019, il y aura ce moteur. Donc ça laisse le temps aux fabricants de cadres de cogiter sur l'architecture nécessaire pour ce genre de moteur.
Alors l'organisateur du championnat est content parce que une marque mythique comme Triumph revenir à la compétition, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Ouais. Même si on communique pas beaucoup sur les moteurs, parce qu'en Moto 2, on dit pas c'est des Honda.
On parle de cadre parce que c'est de la partie cycle qui change. Hein.
Voilà, tout le monde a le même moteur.
La concurrence, c'est la partie cycle. En
fait. Voilà, c'est ça.
Voilà. Très bien, Nico, on te laisse. Je sais qu'il y a un grand rendez-vous là, tout de suite là à midi. Ouais. Donc on va te laisser, et puis on se retrouve peut-être au mois de septembre ou au mois de novembre pour un débriefing.
Pour faire un débriefing
championnat du monde de vitesse.
Entendu.
Ouais. Merci Nico. des motos pour Ludo Pital. Bonjour Bernard.
Bonjour à
Bernard
tous.
Bernard Cada, alors qui connaît pas Bernard Cada? Alors lui, l'itinéraire, alors, c'est lui a un bouc, mais réservé, on peut jamais l'avoir, il est toujours pris droite à gauche.
Quoi.
Bernard, écoute, t'en fais des choses hein, depuis des années.
Bah, toujours pour les enfants.
Voilà, pour les enfants, effectivement.
Ouais, ça change pas. Voilà, que du bonheur dans cette association qui a 30 ans. Une asso de 30 ans qui rend service aux enfants, qui essaye de changer les choses dans les hôpitaux parce que les murs blancs, il y en a marre.
Et nous, t'étais où hier? Parce que nous, on était à Seclin et toi, t'étais où là?
Alors, moi, hier, j'étais dans le Valenciennois pour une petite fille qui s'appelle Iris et qui a une cochonnerie dans le cerveau. Voilà, donc des motards se sont réunis, ils ont fait une belle balade, ils ont filé 2 euros par casque et on a récupéré aux alentours de 600 euros pour cette petite fille. Et moi, j'ai rencontré les parents et je vais l'inviter le 24, là, avec des véhicules américains, puisqu'on va parler de ça. Le 24 septembre, j'ai invité la famille pour qu'ils se retrouvent sur une autre ambiance motarde, voilà, pour que la petite fille, elle change d'air.
D'accord. Donc, on va parler de cette édition anniversaire, 24 septembre.
Ouais.
Bon, c'est un peu encore un peu loin, hein,
c'est loin, 2 mois et demi, mais bon. Et à la fois pas loin, parce qu'il faut bloquer sur l'agenda, on est tous les uns les autres.
Et puis on va être en vacances, là, dans 15 jours, on est tous en vacances, donc il faut commencer à penser quand même à la rentrée.
Ouais, à bloquer le dimanche 24, voilà, on se retrouve toujours pour les enfants, et là, on est carrément invité, si je puis dire, dans les hôpitaux, puisque l'intérêt, c'est que les motards aillent porter des jouets aux enfants malades, donc dans 2 hôpitaux, on va se retrouver à Marc-Sautelay, sur Villeneuve-d'Ascq, et on est invité sur Seclin-Carvin, donc dans ces 2 hôpitaux-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que donc, tous les motards et l'ambiance qu'on peut y apporter apportent les jouets. Mais selon les pathologies, les enfants descendent de leur chambre et viennent voir les véhicules 2 roues, 3 roues, Ford Shelby, Ford Mustang, tous les véhicules américains qui seront présents.
D'accord, je lis ton affiche, là. Donc une jolie parade de 2, 3 ou 4 roues pour livrer des jouets au profit des enfants hospitalisés. Donc 24 septembre, il y a un rendez-vous, comment on fait, ça marche comment?
Oui, alors le rendez-vous, il est sur place, sur le parking d'Auchan-Lers. On se retrouve tous, comme tu le disais, 2 roues, 3 roues, 4 roues sur le parking d'Auchan-Lers à 8h30. Et là, on paye 5 euros par casque et les voitures, c'est 10 euros. Et on se retrouve à partir en promenade, en cortège, les uns les autres, donc sur Marc-Sautelay, puis après sur Seclin-Carvin.
On ramène pas de jouets alors
Il y a l'argent qui est confié par casque, mais il y a des motards qui nous téléphonent avant et qui confient des jouets. Parce qu'en moto, on a toujours du mal à transporter évidemment des jouets. Donc ça se passe par l'intermédiaire de moi, véhicule, camion, que j'ai prévu pour transporter les jouets en amont.
Peu importe quel jouet, de toute façon, c'est des enfants de tous les âges.
Il faut aller voir sur le site internet, c'est beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'on confie n'importe quoi, pas n'importe quoi justement comme jouet. C'est assez. L'association, on fait très attention à ce qu'on donne parce que du jour au lendemain, on peut fermer, on fait pas n'importe quoi. Non. Il faut aller voir sur le site www.ludhopital.fr. On a ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en jouet. On ne prend pas les VHS, par exemple. On prend les DVD originaux. On prend du jouet, on ne prend pas les gros garages, on ne prend pas les gros camions, les gros camions.
Les consoles de jeu, non ?
On prend la PS4, on prend toutes les consoles de jeu. Oui, on rassemble. Si. On prend beaucoup de choses, mais c'est mieux d'aller voir sur le site, comme ça on sait exactement. Parce que je dis toujours, c'est vrai qu'on n'est pas une annexe d'Estera.
Oui, tu veux dire que vous ne pouvez pas débarrasser des jouets, c'est quand même pour faire plaisir. Et puis, alors, si des consoles qui marchent, qui fonctionnent.
Nous, à Ludhopital, quand on voit arriver certains jouets dans des sacs plastiques noirs, on a peur.
Tu te poses des questions.
On a peur. On se dit, aïe, qu'est-ce qu'on va trouver? Non, mais généralement, les gens font attention et de plus en plus attention. C'est nous qui devons travailler en communication. Et c'est vrai que maintenant, on gère aux alentours de 4000 jouets par semaine. Donc c'est une petite machine quoi, il faut vraiment que ce soit sérieux et voilà.
Alors c'est le retour de Ludhopital hein, dans la moto, parce que ça fait quelques années que vous n'avez pas organisé ce genre d'événement.
Plus de 5 ans, ouais, parce que c'est vrai que c'est un gros boulot. Et moi dans l'événementiel, je peux créer aussi bien du sport que de la culture, puisque là il va y avoir les foulées pour ceux qui aiment courir. On se retrouve le 10 septembre dans le parc Barbieux, donc il y a les foulées qui étaient annulées cause Vigipirate l'année dernière. Et là on reprend le 10 septembre. septembre, la course à pied. Ceux qui veulent marcher ou courir sont les bienvenus et on accueille toujours aux alentours de 3000 à 4000 personnes sur ce projet-là. Et puis après des spectacles, il y a le spotlight là, le 4 juillet, on se retrouve sur un truc anniversaire et une super soirée au niveau du spotlight rue Gambetta à Lille. Et bah là, sympa. Là,
c'est pour tout le monde, hein.
Ouais, j'ai monté un plateau d'artistes. Bah voilà,
magie. C'est tout ce que tu fais. Magie, une balade, un plateau d'artistes. Bah, hier, t'étais à
Là, avec les 30 ans, il y a à peu près deux manifestations par mois.
D'accord. Oui, parce que d'habitude, il n'y en a qu'une, mais bon, là, tu dis, c'est pas assez, quoi, pour faire deux.
Que va-t-on devenir en 2018 Que va-t-on faire en 2018
Mon pauvre Bernard, bon. Voilà, et toujours pour faire plaisir toujours aux enfants hospitalisés.
Toujours au pitchoun, ouais, les budgets, voilà. Budgets qui rentrent. Et puis, ce que les hôpitaux ne font pas, c'est vrai qu'on pallie à différentes choses, que ce soit l'ameublement, les décors.
D'accord. Voilà. Donc, Christine a trouvé ton site, hein, l'hôpital. Enfin, votre site, hein, parce que je sais que vous n'êtes pas tout seul. Tu n'es pas tout seul dans
la société. Je travaille avec un binôme là, au niveau de la communication et de l'événementiel qui s'appelle le Gilles Gameau. Sinon, il y a les bénévoles qui nettoient les jouets. Il y a les pièces jaunes. Il y a plein de choses. On est une petite centaine. Mais après, les gens, c'est le problème du bénévolat. On s'investit un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ça dépend qui.
Ou pas du tout.
Ou pas du tout. Ou pas beaucoup. Pour les plus jeunes, je cherche à rajeunir les équipes. Moi.
Mais vous dormez là, les gars. Là. Mais qu'est-ce que vous avez fait hier soir là.
C'est le café. Le café ce matin n'était pas assez fort.
Il n'était pas assez fort. Hein. Alors, tu cherches des jeunes. Il y en a deux là qui sont bien. Ils sont costauds comme tout. Là,
et on travaille avec des jeunes qui sont au niveau des grandes écoles. Et c'est vrai qu'on travaille que 3 mois, 4 mois, 6 mois. Puis après, on les voit plus. Bah
justement,
c'est ça qui est dommage.
La moyenne d'âge, alors, du boutal, justement. La moyenne d'âge.
Des bénévoles.
Ouais, des bénévoles, justement.
62 ans.
Ah, quand même.
C'est inquiétant.
Oui, c'est inquiétant.
Voilà.
Mais bon.
Donc, j'essaye de trouver des plus jeunes. Mais après, les jeunes, ils ont autre chose à faire, quoi. C'est vrai que.
On a déjà des vies bien remplies.
Ah, vous aussi. Ouais. Ouais, mais vous, c'est pas la même chose. C'est pas pour aller. Hein. Non. Voilà. Bah, tu prends un gamin de 15 ans. Qui serait intéressé, tout de suite, ça va te baisser ta moyenne d'âge.
Oui, mais il faut voir ce qu'il peut faire, ce gamin de 15 ans. On va pas prendre des gens pour dire de les prendre, quoi. Il faut vraiment.
Très bien. Bon, allez, on rappelle. Donc, on retient la date du 24 septembre, hein, parce que là, l'émission, nous, on se termine dimanche prochain. Donc, il y aura plus d'émission juillet, août et même un petit peu en septembre.
Ouais,
donc,
qu'est-ce que vous prenez comme vacances, franchement?
Oh, bah non, mais attends, nous aussi, on veut faire des balades. Nous aussi, on veut aller à l'île de Man, on veut aller au Mans, on veut aller à Seine, on veut aller le dimanche quand même. En Mayenne aussi, visiter le musée. Donc, on met sur le calendrier dimanche 24 septembre, Lune Hôpital avec Bernard Cadard et puis toute son équipe. Mm-hmm. Quand je dis ça, c'est bon.
Ah oui, mais je ne fais pas d'erreur. Complètement. Hein. Voilà. Non. Avec l'équipe de Kikakout et tout pas.
Et bien sûr, on sera là aussi. Ouais. Bien sûr,
on fera un direct.
Ah, si tu veux, bien sûr, pas de problème.
Chaud. C'est le wifi, je m'inquiète du wifi.
Très bien. Donc, une jolie parade, 2, 3 ou 4 roues hein, pour livrer des jouets au profit des enfants hospitalisés. Le 24 septembre, il y a un site internet, Christine.
Ah oui, est-ce que tu es dessus, tu vas donner. C'est intéressant. Et là, effectivement, j'étais sur les jouets. Ils donnent plein de consignes d'où viennent nos jouets, où apporter les jouets, à quel moment, et ceux qui sont refusés, en fait. Voilà.
C'est pas beau,
très, très intéressant.
C'est extraordinaire. Hein. Merci à toi.
Merci, Bernard. Et puis, on se retrouve au mois de septembre.
Ouais, et complètement. Et grand merci à toute l'équipe. Ain't gonna feel no lowdown pain.
je l'avais dit quand Bernard s'incruste. Alors là, on, a, on arrive à le lire. Bernard, tu veux ajouter quelque chose? Ouais. Non, je suis désolé. Je sais que non, vous êtes pressés tous les deux, vous avez fait de fête pépère aujourd'hui, vous n'avez pas là. Ouais.
Non, c'est juste qu'en fait, on parlait moto, on parlait motard, mais c'est vrai que celui qui s'intéresse aux jolis bruits, et je ne parlerai pas de bruit, je parlerai de musique, puisque quand on parle de Ford Mustang et tout ça, ou même de certains véhicules de roue, c'est très agréable. Donc même si on n'est pas motard, et on connaît son voisin, un collègue de travail, et une moto, il faut en parler, quoi. Il faut partager et communiquer plus, parce que je veux vraiment mettre le paquet pour le 24 septembre.
D'accord. Bah donc, et bien, et sur le site, aller faire voir
le site.
Ouais,
complètement.
Pour dire un peu.
Aller se promener sur le site, on découvre.
Ce qu'on fait à l'hôpital.
Tout à fait.
Voilà, merci. Très bien. Merci Bernard. Et bon repas de fête des pères.
Diète, salade.
Voilà, allez, Benoît Delemotte qui vient d'arriver dans les studios. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour à tous.
Alors, je t'ai demandé de passer parce que là, dans 15 jours, on part tous en vacances, hein, juillet-août, et on se relâche un peu. Hein. On va rappeler aux motards de rester quand même vigilants pendant les vacances, et juillet-août.
Voilà, alors je ne vais pas passer pour le rabat-joie de service. Hein. Voilà, la moto, c'est un plaisir, c'est aussi c'est la liberté de circuler. Mais il ne faut pas oublier, comme dit des fois Christophe de Chavannes, sortez couverts, quoi. Moi, j'ai une petite devise qui me trottait dans la tête depuis qu'on s'est eu au téléphone cette semaine. Et je disais souvent, je préfère cuire sous mon cuir que brûler dans les graviers, quoi. Parce que on nous dit souvent, quand il fait chaud, comment vous faites pour supporter un équipement ou ça? Je dis, malheureusement, il n'y a personne qui sait prédire quand est-ce qu'il va tomber. Et quand on tombe, ça fait mal. Le bitume, il est dur pour tout le monde. Mais nous, en moto, il est encore plus. Voilà. Donc, il faut.
C'est dur, même sur le périph' ce matin de Lille, il y avait.
J'en ai encore croisé. Un 4-5, la petite chemisette. Bien sûr. Non, mais. Alors, voilà. C'est malheureusement, il y en a tout le temps. Dès qu'il fait un rayon de soleil, ça arrive. Mais nous, ça fait partie de nos missions, on va dire. On a fait là le salon de Bouchain il n'y a pas tellement longtemps. On a monté deux mannequins, un qu'on appelle le Kéké, puis un autre qui roule et qui est équipé, quoi. Et c'est flagrant de voir les regards des gens et des enfants surtout, qui s'arrêtent sur les images un peu gore des corps un petit peu abîmés, qu'on va dire. Mais ça marche, quoi. Ce style de discours fonctionne, quoi. Alors, fonctionne jusqu'à un certain point, mais ça fonctionne. Alors voilà, pas oublier de sortir équipé. C'est pas parce qu'on va à la plage à Bredune, on profite du maillot de bain le plus longtemps possible, mais quand on reprend la moto, on n'est plus.
La loi dit que le principal, c'est que t'es ton casque et tes gants, hein.
Ouais,
tu peux rouler en maillot de bain.
Faut malheureusement pas se fier à la loi. Si la loi était bien faite, ça se saurait quand même, hein. Donc, voilà,
malheureusement. Je pense que tu te ferais serrer si tu passais en slip de bain devant les gendarmes, tu te ferais serrer.
Un petit peu quand même, je pense qu'ils apprécieraient.
Pas déconner. Enfin,
pour dire aussi, pas oublier une bonne fête à tous les papas, grands-pères, beaux-pères et pères qui s'ensuient. Hein. Oui. C'est quand même la fête des pères aujourd'hui, donc faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de. Voilà. Donc,
alors je voulais aussi revenir un petit peu, il faut se méfier du gouvernement. Là. Qu'est-ce qu'il pourrait
aussi,
nous.
On va rester sur la moto. Alors déjà, dans pas longtemps, le 1er juillet, changement des plaques d'immatriculation.
Faut pas oublier les plaques.
Changement ou modification ou mise aux normes, on va dire, pour tout le monde. Hein. Donc, du 21 par 13, le lettrage change pas, mais voilà.
Bizarre,
par contre, la question qu'on ne sait pas, et personne ne sait nous répondre, c'est imaginons nos amis qui ont des motos avec encore les anciens numéros. Est-ce qu'ils vont devoir repayer une carte grise? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont changer leur plaque? On ne sait pas. Parce que les anciens numéros, alors il faut savoir qu'on espérait, nous, que la loi passe jusqu'en 2020, puisqu'en 2020, on va passer sur le CIV, donc c'est le Centre d'interprétation des véhicules, je ne sais plus quoi. Et en fait, jusqu'en 2020, on pouvait avoir des anciennes plaques. À partir de 2020, tout le monde devait être au nouveau format de lettres. Trois chiffres de lettres. Donc on pensait que ça serait comme ça. Mais non, notre gouvernement précédent, là, juste pour dire de nous emmerder avant de partir, hein, il nous a remis une couche en disant, tout le monde change. Là, en 1er janvier 2017, il faut tous des plaques 21 par 13 pour tous les deux roues motorisées, avec un lettrage qui ne change pas. Mais ils ne savent pas nous dire si ceux qui ont des anciennes plaques avec des anciens numéros...
59, les deux lettres et les chiffres.
Eux vont devoir sûrement repayer une carte grise. Je pense qu'ils ne vont pas s'asseoir là-dessus, quoi. Donc voilà, ça c'est très compliqué. Il nous reste qu'un jour pour se battre, hein, donc il faut pas y aller. Après, voilà, ça peut toujours être discuté après, hein, mais on aura beaucoup de mal après, une fois que c'est mis en place. Alors en plus, il faut savoir que c'est soi-disant pour notre sécurité, mais qu'une plaque d'immatriculation, on n'a jamais rien changé à notre plaque à notre sécurité. Quand on pourrait avoir une 4x3 par nous faire ralentir, c'est tout ce que ça va faire.
Alors, les fameuses critères aussi, la vignette.
La vignette critère aussi. Ouais. Alors ça, c'est encore un petit peu plus obscur, parce que pour l'instant, ça ne reste que en cas de pic de pollution, que sur décision de la préfecture. Donc les préfets, on les a rencontrés là, le 13 mai à l'issue de notre manifestation. Et puis voilà, donc lui, il est conscient du truc. un petit peu le discours langue de bois, quoi. Mais voilà, la vignette critère va être mise en place, hein, dès qu'il y aura un pic de pollution, dès que ça va, voilà, ça va tomber, hein. Et c'est interdiction de circuler, et 135 € d'amende, et éventuellement immobilisation du véhicule, enfin,
ah
voilà.
Oui.
Et,
ah, tout ça, quand même.
Ah, tout ça, quand même. Non, ils y vont pas, ils y vont pas de main morte, hein. Et ça, ils nous l'ont remis juste avant de partir, là, début mai, hein. Donc, c'est quand même tout récent. Alors voilà, ça, c'est, on fait partie des combats de la Fédé, hein. On se bat partout, on va sûrement encore organiser des choses, alors sûrement peut-être pas à la rentrée, mais très tôt. Moi, je pense que vous aurez peut-être pas encore repris les émissions, qu'il y aura peut-être un petit peu de sujet là-dessus. Et pour rebondir là-dessus, d'ailleurs, il y en a un. Alors, je le fais, mais en avant-première. Vous êtes les premiers à le savoir. La presse sera au courant demain.
Tous les auditeurs autour de la table.
Voilà. On organise une opération la semaine prochaine. Donc le samedi 24 juin, on donne rendez-vous à quelques motards, faut pas être non plus 3000, hein, c'est parce que sinon ça va être un petit peu ingérable. Donc à la sortie Berg sur l'A25, chez Moto Passion, un concessionnaire multimarque qui est Faubourg de Cassel, à 13h30. Et on va mener une opération sur quelques sorties d'autoroute, notamment les sorties d'autoroute qui ont causé de nombreux accidents. Donc à Berg, on a eu plusieurs accidents graves et mortels. En fait, c'est les sorties d'autoroute avec un tourne à gauche. C'est-à-dire que les gens sortent de l'autoroute et doivent couper une voie de circulation pour tourner à gauche, avec très peu de visibilité. Et donc des sorties qui sont pas équipées de rond-points. Ils en ont fait quelques-unes, mais il en manque encore. Il y a Nieppe, voilà, il y a Berg, il y a Hasbrouck, ça a été refait. Carvin qui a été refait aussi suite à des accidents aussi graves et nombreux. Donc voilà, donc là on mène une petite opération. Donc ceux qui veulent venir nous donner un petit coup de main, bah, ils sont les bienvenus, hein. Donc à 13h30 samedi prochain, chez Moto Passion, on va faire un aller-retour jusque donc de Berg à Nieppe et de Nieppe jusqu'à Steenvoorde pour montrer aussi qu'il y a des bons exemples, parce que Steenvoorde a été refait il y a pas tellement longtemps, et ça c'est le bon exemple, c'est l'exemple à suivre. Donc voilà, une petite balade dans l'après-midi, bien sympathique, avec quelques messages. Voilà, les motards ne meurent pas, on les tue. Enfin, ici, on tue du motard. Enfin, voilà.
D'accord. Notre slogan habituel. Il y a un site internet.
Tout va être mis en ligne dès ce soir ou plus tard demain, parce que voilà, on met tout en ligne en même temps pour que les messages soient pas confondus avec d'autres. Donc voilà. Donc ceux qui veulent nous donner un petit coup de main, ils sont bienvenus samedi prochain. Et pendant qu'on est dans les actualités, comme je sais qu'en septembre ça va être un petit peu chaud, faut pas oublier la 5e balade du cœur de notre copain Freddy Dupont. Donc le dimanche 3 septembre à Aulnoy-Aymeries, site de la Florentine. Donc avec une balade de 80 km, des shows stunt, des concerts, voilà. Donc le 3 septembre.
Je crois qu'on va pas s'ennuyer.
Ah non, voilà. Non, mais c'est parce que vous prenez beaucoup de vacances. On vient le dire tôt.
Désolé.
Et puis voilà, toujours les sites internet, le Facebook, voilà, il y a un petit peu d'infos. Faut pas oublier nos amis Bicheur aussi au mois d'août. On sera aussi sûrement. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a moyen de faire.
Très bien, merci Benoît. Rien à ajouter.
Merci à vous. Non, je crois que c'est bon.
Voilà. Eh bien, écoute, c'est pareil, je te laisse aller parce que là, tu es attendu.
Ouais. J'ai le barbecue qui commence à chauffer. Très bien. Merci à tous.
Nous, on se retrouve bientôt, peut-être, là, okay. Peut-être samedi prochain. On verra si on peut être disponible.
Ça marche.
Sinon, à la radio, ce sera en septembre.
Voilà, très bien.
Merci Benoît.
On compte sur vous. Merci à tous.
Retour avec Aurélien et Julien qui ont, on va dire, participé à leur premier Tourist Trophy à l'île de Man. J'oserais un peu. D'ailleurs, vous êtes payé le voyage, parce que, enfin, vous êtes offert un peu ce voyage, parce que il y a quand même un budget quand même. Là.
Ouais, on s'est offert une belle semaine de vacances. Une belle
ça
semaine,
coûte combien maintenant? 15 jours. Vous êtes parti 15 jours
on
à peu
près. On est
parti
10 jours. 10 jours. Le poste le plus important, c'est la traversée entre l'Angleterre et l'île de Man. Là, effectivement, il y a un billet de 320 euros rien qu'en traversée.
Donc, on prend le bateau à Liverpool ou Echam. Hein. Il y a deux solutions. Pourquoi aller à Echam ou on peut le prendre à Liverpool ou l'inverse? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un choix à faire là?
Ah bah au final, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on prend les places qui restent. Parce que c'est vraiment.
Ah, parce que quand tu reçois ton billet, tu dis, bah non, tu vois que c'est Aïcham.
Ah non, ouais. Non, mais.
C'est pas toi qui décides.
C'est quand tu veux aller sur le serveur là, pour réserver ton billet. Quand ça ouvre à 9h et 9h30, je sais plus, le 31 mai.
Donc un an à l'avance.
Alors
voilà, donc on va revenir ici. On peut pas se pointer comme ça à Aïcham ou à Liverpool et tiens, je prends le bateau.
C'est
compliqué. Il n'y a pas de place.
C'est compliqué.
Ou alors il faut attendre.
Il faut attendre, ouais. Faut attendre.
Des jours, des nuits, il y a une place qui se libère.
On a quand même vu des mecs qui arrivaient et puis qui se pointaient sans réservation.
Alors
et ils ont réussi à avoir des places, mais suite au désistement, à mon avis, de certains. Parce que vraiment, un an à l'avance, tout est booké. Et nous, quand on a voulu réserver, je me suis pointé à 9h sur le site. Tout était full.
Au mois de mai.
Ah ouais, au mois de mai de l'année d'avant. Donc,
Au mois de mai de la. Oui, bien sûr.
Le serveur était full et on a pu se connecter uniquement à partir de 18h le soir même. Et donc là, du coup, on a pris les places qui restaient. Donc là, en l'occurrence, on est monté à Echam pour revenir après le retour. On est arrivé à Liverpool.
Donc, tu ne prends pas non plus la date que tu as choisie. Hein. C'est la compagnie qui t'impose.
Les places qui restent.
Il y a une place le 5 juin et une autre.
Tu reviens le 11.
Le 11, voilà.
Le 11, quand tout est fini, deux jours après que tout soit fini, mais t'as pas le choix.
Donc, il faut réserver donc un an à l'avance, ça c'est clair.
Sur le site de la Steam Packet Company.
Il faut au moins avoir 2000 euros. Ouais, dans son porte-monnaie.
Alors, pour dormir en dur. Ouais, en camping, je pense qu'il y a moyen de. Nous, on est moins quand même.
Ouais, on doit être autour de 1000 euros. Ouais.
Combien?
1000 euros. Oui.
1000 euros seulement pour faire le.
Oui.
En budget?
Ouais.
Ça me paraît un peu court quand même.
Non, on doit pas être loin.
On doit pas être loin.
On doit pas être très loin.
Donc voilà, vous avez dormi dans une ferme, je crois.
Ouais, dans un camping à la ferme.
Un camping à la ferme.
Au nord de l'île, à côté du virage de Ramsey. Et ouais, vraiment très sympa. Mais c'est vrai que je pense. À l'avenir, on en avait discuté, on ira plus sur Douglas, là où vraiment...
Vous avez l'intention d'y retourner?
Ouais, en fait, faut profiter de la ville, il y a vraiment toutes les activités, c'est Douglas, du coup.
Petite question, vous avez moyen de rouler là-bas ou pas du tout quand c'est la course? Enfin, il y a moyen de rouler en moto ou quand les courses sont arrêtées ou vous êtes à un endroit et il faut rester là, quoi?
Non, tu peux tourner autour du circuit, mais il faut se mettre vraiment à l'extérieur du circuit. Ouais. Après, tu peux.
T'as pas le droit de traverser, ouais, voilà. Ça c'est sûr.
Surtout pas.
Donc, du coup, soit tu te mets à l'intérieur, tu peux faire une journée en allant d'endroit en endroit, soit tu te mets à l'extérieur. Ouais. Et là, c'est sympa aussi.
Et donc, parce là,
tu
arrives à circuler en moto. Et puis,
tout à fait. Voilà, il y a des petites routes, tu te balades, tu t'arrêtes, tu regardes un endroit, tu repars.
Enfin, okay,
ce qu'on a fait plusieurs fois, du coup, on a vu une dizaine d'endroits différents.
C'est 15 jours, hein, en gros, à l'île de Man, le Tourist Trophy. Donc, la première semaine, les essais, le qualif, essai. Et deuxième semaine, c'est les courses.
C'est ça.
Donc, il y a un formatage aussi. Il y a une course tous les deux jours.
Ouais, c'est ça.
Normalement, quand il pleut pas trop.
Normalement, ouais.
Planning de départ.
Alors, comment ça marche?
Eh ben, c'est. Comment ça marche? On va dire que le vendredi, le samedi, ils font les premières courses. Ensuite, c'est donc pas le dimanche, mais le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc après, en fonction de la météo, ils arrivent à caler s'il n'y a jamais de la pluie, ils arrivent à décaler et à caler les courses dans les journées qui n'étaient pas prévues de course. Donc là, au final, il faut être quand même bien informé, parce que c'est vrai que...
Oui, alors c'est le problème aussi, c'est l'information. Il y a une radio, hein, en fait, Tourist Trophy. On peut avoir de l'info, parce que c'est pas facile de reconnaître les catégories. D'autant plus que ça, c'est un circuit de 60 km, donc ils partent chacun leur tour, les concurrents.
Tous les 10 secondes.
Voilà.
C'est vachement bien fait. Hein. C'est-à-dire que le site internet, on peut se connecter n'importe quand. Live timing, mise à jour, prochaine mise à jour midi, voilà, tu te reconnectes à la minute.
T'as l'impression d'y aller avec une console ou... Ouais.
Alors maintenant c'est plus simple parce que c'est vrai qu'on a l'accès, on a tous l'accès à Internet sur
un téléphone assez. Voilà.
Ils te vendent des petites radios aussi portables.
Ah oui.
Du coup tu. Non, c'est bien.
Ouais. Pour répondre à la question de Benoît, c'est que donc une course tous les deux jours, donc le jour où il n'y a pas de course, on peut visiter l'île.
Tu peux visiter l'île, ouais. Tu peux faire le tour de l'île, aller.
Alors est-ce que vous avez visité l'île?
Ouais. On a fait un petit peu de
génial.
Trucs,
ouais.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, il y a pas mal d'événements autour du Titi, hein, faut le savoir. Il y a des marques qui se regroupent. On a fait un rassemblement italien.
Alors, mis à part les courses, voilà. On voit quoi au Touristrophie?
Des musées, principalement des musées, ouais. Des paysages, bien sûr. Quand même, il faut le faire le nord de l'île. Là, on a fait la pointe de l'île, la pointe nord, la pointe sud. Des musées, des vrais passionnés qui ont des musées gratuits où on fait des dons, mais voilà, des motos magnifiques, principalement anglaises, hein, bien sûr, mais de toutes marques. Et ensuite, les rassemblements voilà, de marques aussi qui
se produisent un peu partout dans l'île. Toutes les marques organisent un rassemblement dans la semaine, dans les 10 jours.
Je pense pas que ce soit les marques, mais des associations ou des passionnés, voilà, les Italiens.
Ou des clubs, peut-être, des clubs de
marques. Là où on était aussi à Ramsey, il y avait aussi ils s'amusaient à faire des départs arrêtés sur 400 mètres. Donc quand il n'y a pas de course, on peut encore aller faire un tour là. Il y a des motos qui sont préparées dans tous les sens.
Tu peux t'y inscrire avec ta bonne ville.
Avec ma bonne ville. Voilà. Non, c'est pas moi la bonne ville, je ne peux pas le faire. C'est... Ou si je le fais, je vais faire en cachette. Ouais. Bon, bref. Donc voilà. Alors donc c'est les motards qui sont là-bas qui viennent et qui font des...
Qui font des départs arrêtés, ouais. Ils s'amusent à faire des courses, ouais. Avec des motos complètement trafiquées. Parce que là-bas, au final, ils roulent avec des machines vraiment pas bricolées. Mais on a vu des motos vraiment bien préparées.
De limite.
Ouais. Ils mettent vraiment le paquet sur leur moto. Hein.
D'accord. Bah, je sais qu'il y a eu beaucoup de pluie.
Un peu.
Hein ouais. Il y en a eu beaucoup. Ça a été 2017 et une édition pluvieuse. Bon, on va passer à morceau de musique et on va revenir sur la pluie. Ouais.
Reminds me of the second time.
Aurélien, Julien, on va revenir sur la météo, la pluie, le soleil, c'est une île. Hein.
Ouais, c'est une île.
De toute façon, ça change très vite. Voilà. Donc, il vaut mieux peut-être, vous avez campé et quand vous avez pris de la pluie pendant près de 10 jours et au bout d'un moment, ça ne sèche plus.
Ça sèche plus.
Il faut trouver des solutions.
Bah, y a les matelas qui flottent après, ça devient compliqué, mais bon, on s'est bien marré quand même, ça fait des anecdotes.
Voilà, donc peut-être préférable de trouver un gîte ou une auberge, évidemment avec un budget un peu plus...
Ou une bonne tente.
Oui, parce qu'elle a percé votre tente.
Ouais, c'est ça, oui. Il y a des soucis avec la tente, du coup on s'est pris un peu la bâche sur le
C'était pas marrant qu'il pleuve déjà normalement, vous êtes trouvé, vous avez dit tiens, on va prendre une tente qui perce, comme ça sera encore plus marrant.
Hein,
mais c'est des trucs à raconter. Bon, Julien et Padoc.
Eh ben, alors tout est accessible, c'est super, on peut rencontrer ses idoles, voilà, contrairement à d'autres sports moto où maintenant c'est impossible ou très cher. Là, c'est vrai que c'est super. Alors, ce qui est impressionnant de voir, c'est les gros teams qui checkent chaque moto entre chaque course complètement, il n'y a aucun droit à l'erreur. Donc ils démontent les moteurs, ils sortent les moteurs des cadres, ils les remontent, voilà, c'est des petites choses.
Ils sortent tout, ils démontent tout, ils contrôlent tout. C'est vraiment impressionnant, ils dépoilent tout et allez, c'est parti. On a le mec qui parlait de 11 heures de travail entre chaque course, rien que pour remonter la moto, enfin de la démonter, la contrôler, la remonter. Donc ouais, les mécanos, ils ont du taf aussi, ouais.
Et pilotes français, bien sûr, hein, voilà, c'est sympa d'aller discuter, leurs ressentis, voilà, comme Julien Antoniotti qui...
Est-ce que vous avez vu Fabrice Miguet?
Ouais.
Alors, ouais. Fabrice Miquet, moi, je l'ai pas croisé.
On l'a pas, c'est Xavier Denis.
Pardon. C'est Xavier Denis qu'on a croisé du Team Optimark avec son coéquipier qui est Julien Tonuti, donc le multiple champion de France de rallye, qui roulait pour la deuxième année au TT avec une Yamaha R1 et une Yamaha R6 en super sport. Et c'est vrai qu'il nous expliquait un peu tout ce qui se passait. Et au final, c'est vrai que c'est vachement intéressant d'être en lien direct avec lui. Il t'explique vraiment bien ce qu'il ressent.
On l'a attendu à son motorhome, à sa tente, après un tour de circuit. Et en fait, il y a un gars qui a cassé son moteur devant lui. Donc ouais. On parle 220 km/h de moyenne. Il faut s'imaginer dans la montagne, le mec devant lui. Donc un nuage blanc. Il est revenu sur la combine plein d'huile, la moto plein d'huile. C'était juste impressionnant. Ouais, ouais. J'aurais pu mourir.
Il nous a expliqué qu'en 3 minutes, il a failli mourir 3 fois. Ah oui, et puis les gars, ils y retournent encore. Ils sont complètement barrés.
Ça te plairait, Aurélien? Parce que je sais que tu as participé au Superbike, Super Sport en Belgique.
Ouais, ça doit être sympa à faire. Je sais pas si
ça te plairait de faire la course.
Je sais pas. Je mets un joker.
Il faut en avoir.
Franchement.
En gros, c'est Chimay, hein, mais c'est aux 60 bornes.
Hein. Ouais. Ouais. Avec un terrain qui est complètement déglingué par rapport à Chimay, où Chimay tout est refait. Et c'est vraiment un beau tracé. Là,
avec des trottoirs en centre-ville.
Des trottoirs.
Donc, alors le paddock, c'est gratuit. Tout le monde peut rentrer. Il n'y a pas de problème. On peut aller voir discuter, voir un peu le travail des mécanos, avec des pilotes.
Tu peux voir Michael Dunlop, Guy Martin. On avait croisé aussi John McGuinness.
Si vous parlez un petit peu anglais, si on parle anglais, on peut toujours discuter avec. Voilà. Mais une fois qu'on est coincé, quand même, quand les jours de course, on peut plus bouger. Hein, il faut choisir un endroit. On a du mal à pouvoir aller dans les paddocks un jour de course.
Alors si on se trouve à l'extérieur du circuit, pas de souci. Oui. C'est l'avantage, c'est que par les petites routes, on sait faire tout le tour du circuit. Il y a qu'à Ballot Bridge ou là.
Ballot Bridge et Kirkmichael. Ou là, c'est pas possible.
Mais
c'est la seule route.
10 km, quoi. Voilà. Mais sinon, tout le reste, on sait aller se poser et regarder. Ouais. Alors il y a 3 ou 4 files de personnes devant soi, donc c'est mieux d'y aller le matin, de se poser un peu comme au Touquet ou sur d'autres gros événements pour avoir la bonne place. Mais
Il faut venir avec son ravitaillement. Hein.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Alors, il y a beaucoup
son petit
de
sandwich. Si tu restes toute la journée.
Avec sa bière.
Et sa bière aussi.
Les bières anglaises sont pas terribles. Ouais, voilà. Bon. Mais on fait avec.
On n'a plus beaucoup de temps. On va revenir un petit peu sur un grand rendez-vous pour les Français surtout. Hein. Un grand rendez-vous des Français, le rendez-vous des Français, donc
le puits, c'est un puits.
La fontaine, c'est un puits à Douglas.
Un puits à Douglas, c'est ça.
Alors, c'était bien.
Ouais, super. Génial. Avec les pilotes, dont les deux filles, qui étaient quand même sixième en course. Hein,
en course 2, ouais, en sidecar, voilà. Avant d'avoir un problème technique avec la pompe à essence, elles étaient sixième.
Donc elles viennent, Julien Tonuti vient, Xavier Denis, on discute, super.
Vraiment,
des échanges, on rencontre des poids de vin, on rencontre
Les Marseillais.
Les Marseillais, des gens de partout. Super.
Des Lyonnais.
Très convivial, voilà. Très convivial.
Et on ne vit pas les mains vides.
Et c'est ça.
Ah non, sinon, ça ne va pas le faire.
Non, non, mais dites un peu.
Donc chacun, bah nous on a pris
des bières de chez nous.
Des bières de chez nous là cette année. Donc chacun pose ce qu'il ramène sur le puits, le fameux puits. Et donc tout le monde se sert. Voilà. Donc ça va à volonté quoi, là, tant qu'il y en a.
Voilà. Et puis voilà. Donc on goûte les spécialités de chacun.
C'est ça.
Voilà.
Tout à fait. Tout à fait.
Très
et
bien.
Et voilà. Et ça délie la langue au fur et à mesure.
Voilà. Donc ça dure jusqu'à quelle heure là
à la fontaine. 3 heures quand même.
3 heures du matin.
Non,
22-23
heures. Mais on a commencé à 19h.
Ah oui, quand même.
Voilà. Après, il y en a un paquet qui sont partis pour aller manger tout ça. Donc après, il faut éponger.
Oui. Bah, ça dépend si tu as bu du coca, du soda. Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose un peu préciser aux auditeurs qui voudraient faire le voyage l'année prochaine?
Ah mais bon courage pour réserver les billets. Ouais. Sinon il y a une session de rattrapage au mois de février parce que il y en a qui en fait au mois de mai on fait que la pré-réservation et ceux qui peuvent pas y aller donc du coup ne payent pas le complément et du coup là ils remettent en vente des places fin février. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire à regarder pour essayer de trouver une place.
En tout cas, allez-y, que ce soit au niveau de la diversité des motos,
l'ambiance.
On a vu tout type de motos, les gens. On a parlé avec 7 ou 8 nationalités différentes.
C'est génial.
Gens qui venaient de partout en Europe. Et les courses,
les Polonais, on a croisé des Polonais, des Tchèques.
Et moi, je peux vous dire la date du Tourist Trophy 2018. Ce sera du 26 mai au 8 juin.
Bah parfait, merci. Alors, l'ami.
À vos claviers et réservez parce qu'il n'y a qu'une seule compagnie, hein, c'est la Steam Racket. Ils ont aussi une Racket. C'est aussi impressionnant hein, parce qu'il n'y a pas de bagnole hein, et pas de camion le jour du Trust Trophy. Il
n'y
a que des motos qui sont alignées dans le ferry. Hein.
Ouais, c'est impressionnant.
Ça met du temps à accrocher les motos et tout.
C'est ça, il faut 2 heures.
Par contre, pour décharger, il y en a pour 10 minutes.
Chacun enlève son
petit moto. C'est aussi quelque chose à voir.
Ouais, c'est à voir.
Bien, Julien, merci. On voudrait passer l'interview de Jean-Luc Gagnard du musée et puis de la Mayenne aussi pour une superbe idée de balade pour le mois de août, juillet-août. Éventuellement, si vous voulez faire un petit tour par là-bas, c'est un peu moins cher et un peu moins loin quand même.
Mais je vous invite.
Et puis Christelle vous invite.
J'ai gentil.
C'est un très beau salon de la moto où il y a beaucoup de gens. C'est très, très très sympa. Puis c'est l'ambiance du Nord que j'aime bien. Les gens sont très accueillants. Alors donc voilà un peu cette vie qui s'est mise en place comme ça. Bon, je fais aussi des anniversaires, des décors de resto, enfin tout ce qui est artistique. C'est ça qui me plaît le plus, c'est l'artistique, la mise en scène et tout. Et puis je fais vivre un peu la collection en faisant des groupes, des visites, puis j'ai beaucoup de demandes. Donc voilà, ça permet de partager aussi ça parce que c'est toute une histoire, c'est 42 ans de boulot. Mais l'avantage c'est aussi que ça profite à plein de gens. Hein, donc voilà, on a réussi encore à gérer l'affaire à peu près intelligemment pour que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà. Alors on va visiter, on va commencer par le vieux garage. Vous ferez gaffe, il y a deux petites marches dans le vieux garage et en général on les voit pas. Alors parce qu'on regarde les motos, c'est normal. Et donc vous, voilà, on posait plein de questions parce que j'ai pas mis de papier sur les machins parce que ça fait de la pollution. J'ai essayé de faire le truc le plus authentique possible, comme si c'était à l'époque et tout. Et donc j'ai pas réussi à mettre des petits panneaux.
Il y a combien de bécanes en état? Combien de bécanes en état de rouler?
En état de rouler, il y a à peu près, on va dire, 90% du temps.
Bonjour. Ouais.
Alors, les motos, je les complète, j'essaie de les faire tourner. Bon, il y a eu des cas où j'ai eu des expos qui se poussaient les unes les autres, où j'ai pas eu le temps de refaire les mécaniques. C'est du temps de faire marcher les moteurs.
Ah, oui, bon,
c'est beaucoup de temps, et depuis un moment, on s'est avoué qu'on est un peu débordé avec ça. Et après, bon, les machines, des fois, elles sont 20 ans sans tourner. Si j'ai besoin pour un film ou un truc, je me remets dessus et je la fais marcher. Il faut se débrouiller.
Donc, théoriquement, elles tournent presque toutes, quoi.
Théoriquement, oui. Et donc, j'ai des engins qui peuvent tourner si j'y passe un petit peu de temps. Certains. Je veux dire, il faut au moins une remise en route quand c'est 10 ans sans tourner. On a les allumages qui nous font des fois défaut, les magnétos qui vieillissent, le verre de gris qui se met dedans, qui fait des courts-circuits. Après, pour le reste, à partir du moment où la magnéto marche, le reste va marcher. Il n'y a aucun problème, c'est que du mécanique. Donc après, on se débrouille toujours. C'est l'allumage qui nous coince des fois. Alors après, il y a des combines. Tu peux aussi, pour circuiter ta magnéto, mettre un allumage batterie bobine un peu factice. Il y a d'autres moyens d'inventer des trucs, mais on essaye quand même de les faire d'origine, faire les trucs sérieusement. Bon allez, hop, on est parti, on va aller jeter un coup d'œil à tout ça. Parce qu'alors, en fait, quand je suis arrivé ici, l'endroit était magnifique parce que c'était une petite clairière. Il y avait la loge qui était en ruine, il y avait la maison que j'ai agrandi de moitié. J'ai fabriqué cette bâtisse-là aussi parce qu'elle n'existait pas. On ne croirait pas, mais elle a 22 ans maintenant, cette bâtisse.
J'ai fait le vieux garage parce qu'en fait, quand j'ai eu besoin, j'avais stocké dans mon malange, et quand j'ai eu besoin de la restaurer, il a fallu que je stocke. Alors j'avais fait un appenti ici, et quand j'ai fait l'appenti, j'ai dit après tout, tiens, je vais continuer comme ça. Et puis c'est voilà, tout à fait. Moi, je suis encore beaucoup trop serré, mais voilà, c'est l'éternel problème. Ouais.
Je suppose de connaître, parce que moi, je connais.
Quand j'étais ado, j'ai joué sur les super Strada.
C'était des super Strada.
Ah oui.
Avec des moteurs Morini.
Ah oui, d'accord, l'italienne. Ah oui, oui, oui. Les italiennes, ça a été.
Elle est où la Strada? J'avais une quand j'étais gamin.
Ah, bah, attendez, pardon.
Ah, voilà.
Le problème que j'ai, ça fait partie des lacunes un peu ici, mais bon, on ne peut pas tout faire. Ouais. Il faudra encore un bâtiment. C'est-à-dire que j'ai surtout essayé de réunir les engins qui ont été le début de l'histoire. Et par contre, j'ai eu des très belles italiennes. J'ai eu une 750MV, j'ai eu des motos comme ça, que j'ai relaissé partir pour de l'échange, pour du plus vieux. Ouais. Mais ça n'empêche pas que j'aimerais bien un jour refaire un local avec des années 50 un petit peu, et puis de la belle italienne. Elles sont belles, ces motos, elles ont des couleurs fantastiques. C'était des beaux moteurs, ils sont forts les Italiens.
Ah, oui.
J'ai juste une Gilera Saturno avec laquelle je fais les courses. Donc ça, c'est un tricycle de Léon Bouton. Il date de 1899. C'est la plus vieille pièce de ce musée, enfin une des plus vieilles. Et donc ça, c'est un peu le début de l'histoire de la locomotion. Fin du 19e siècle, le marquis de Dion, qui était sénateur-maire de la Loire inférieure, passionné de mécanique, sentait le courant venir un peu vers la mécanique, on en parlait beaucoup, découvre un jour par hasard des petites machines à vapeur dans un magasin parisien. Il dit, mais qui fabrique ces machines-là? Faut qu'on me présente ces gens-là. Donc c'était Georges Bouton et son beau-frère Trépardeau. Il dit, présentez-moi-les, je vais leur proposer quelque chose, c'est de faire les engins à dimension humaine. Donc c'est ce qui s'est fait. Et donc là est démarrée l'histoire de Dion Bouton et Trépardeau. À partir de 1895, ils lancent la première série de tricycles à pétrole, comme ça. Mais leur grande spécialité a été surtout le moteur à explosion qui est là, qui était un moteur très fiable, qui est à l'origine des Harley Davidson, des Indians, on y reviendra un peu plus tard dans la visite. Et ce moteur, ils le vendaient aux petits assembleurs qui n'avaient pas le moyen de fabriquer leur moteur. Donc ils achetaient un moteur chez Dodion, ils étaient sûrs de la fiabilité, et donc voilà, ça marchait comme ça.
Aussi.
Ouais. Donc on a eu près de 200 marques de motos françaises, hein, dont certains en ont fait une ou deux, très peu de gens... enfin, il y a eu des gens qui ont fait très peu de motos, mais ils ont eu le mérite d'essayer. Et puis nos grandes marques, hein, Terreau, Peugeot. Par exemple, Peugeot, bah, c'est à l'origine des Norton. La première Norton avait un moteur Peugeot. Les Anglais sont aussi inspirés de nous, hein, malgré qu'ils ont été extrêmement forts dans leur fabrication d'un pays de moto. Mais on a été en automobile et en moto jusqu'à la guerre 14, on a été très très fort.
Ouais.
La guerre 14 a été vraiment la misère pour nous parce que ça a cassé cet élan économique. Il y avait toute cette jeunesse qui est partie au front au lieu de continuer de travailler dans les usines. Donc ça a été une grande misère. À travers ça, donc des marques comme Monégoyon, là on voit un petit scooter, eux ont saisi un peu l'histoire. À partir de 1917, voyant le nombre de mutilés de guerre qu'il y avait, ils ont dit on va fabriquer des engins pour ces gens-là. Donc ils ont fait un Vélociman, un tricycle qu'on verra tout à l'heure dans l'autre garage, un petit tricycle avec un pédalier dans les oreilles, comme je dis, et qui permettait à des gens de pouvoir se déplacer avec une jambe de bois. À partir de 1919, ils ont motorisé les Vélociman. Donc ils ont fait un kit moteur que les gens, suivant les moyens qu'ils avaient, pouvaient adapter à leur vélo ou pas. Et cette marque Monégoyon qui a été fabriquée à Mâcon, donc cette année c'est le 100e anniversaire, d'ailleurs à Pécancourt j'ai fait une expo Monégoyon au Collège Escoffier, et donc voilà, il y a eu quand même 3 600 000 blessés de guerre, hein, avec la guerre 14, c'est énorme. Ils ont fait l'automouche là, qui est derrière, où il y a le bonhomme qui est assis dessus. Ils ont fait que des engins comme ça, à 2 ou 3 roues, mais avec une facilité pour quelqu'un handicapé.
Il est Poirier aussi. Faisais...
Poirier. Alors Poirier, c'était à Fondette, chez vous. Et eux, ils ont fait ça après la guerre 40.
Ouais. Ah, ouais. Ouais.
En fait, après chaque guerre, on retrouve ces histoires de véhicules pour les mutilés de guerre. Et puis on trouve aussi les constructions qui ont du mal à se remettre en place. Et donc, on vend des moteurs auxiliaires pour que les gens puissent déjà remotoriser des vélos. Un peu comme là, on a un vélo avec un moteur auxiliaire. Donc, ça permet aux gens de redémarrer tranquillement, comme ça, en attendant que les fabriques se remettent en ligne. Donc Monégoyon sort en 1923 une 147 cm3, la Z147 à Courbois. Il y en a une tout à l'heure, vous verrez dans le bâtiment. Et Motobécane en 24, il y en a une de pendule. Hein. Motobécane sort en 1924 une série de 600 000 exemplaires de la MB1 à Courbois, qui devient la moto la plus populaire de son époque. Thérault et Peugeot s'associent, on a une Peugeot là, en 1922, par exemple, Thérault a fait le moteur et Peugeot a fait la partie C. Parce que les firmes se remettaient en route, il y avait pénurie de matériaux, pénurie de gens, de travailleurs, puisque, je ne dis pas le dégât, 1 400 000 morts, 3 600 000 blessés, et on ne parle pas des gens qui avaient les troubles psychologiques, ce qui était énorme aussi. Donc je ne vous dis pas dans l'état qu'était la jeunesse dans ce pays-là, hein. C'était une catastrophe. Donc il y a un film en ce moment qui est dans les salles, c'est Cessez le feu avec Romain Duris, c'est un film où j'ai travaillé pas mal, qui traite justement tous les problèmes psychologiques des soldats après la guerre 14. C'est un très beau film.
Par notre amie Christine. Alors c'est un piano qui date de 1925. Quel joli qu'a trouvé. Du musée de Jean-Luc Guignard en Mayenne, avec le boire de l'amitié, voilà, avec un vin bio local.
Bio.
Bio. Dans un environnement reconstitué à l'époque des taxis de la Marne. Il y en a un juste devant.
Donc, il y a même plus
que...
Avec des mannequins plus que réalistes.
Plus que réalistes.
Vivant. La parole.
Voilà Christine, c'est la fin de la visite du musée de Jean-Luc Gagnard. Avant le morceau de musique, donc c'est tout début, hein, c'est l'introduction. Hein. La visite dure à peu près une heure et demie. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis à la fin, ben voilà, on a ce pot.
Ça se termine toujours à la guinguette.
Toujours à la guinguette. Et voilà,
du musée.
Il y a ce petit vin qui est vraiment très très bon.
Ah oui,
et
très
puis
bon, oui.
Ce petit air de musique, ben voilà, je jouais, mais bon, c'est
mais
pas
tu
tout.
Tu joues bien quand même.
Oui,
piano,
je jouais
Christine.
Bien, mais bon, c'est surtout mes pieds qui jouaient en fait. c'est bon, voilà, c'est assez intéressant.
Voilà, donc on peut faire une pierre deux coups, visiter une belle région, la Mayenne.
Oui, voilà.
Laval.
Laval, c'est très joli à visiter. Il y a une rivière, la rivière la Mayenne qui la traverse, donc c'est super. Mais il y a aussi plein d'endroits jolis à visiter. Il y a le halage de 85 km, donc on peut faire du vélo, on peut faire du kayak. Il y a des guinguettes, enfin voilà, c'est super sympa. Et plein de gîtes pour vous accueillir.
Et le musée de Jean-Luc Gagnard se situe allez, à 500 mètres de la Mayenne.
De la Mayenne.
Il y a une belle petite, un beau petit restaurant juste
voilà,
au bord.
La guinguette,
il suffit de faire 200 mètres. Et,
voilà.
Puis,
et on y mange bien et on est super bien accueillis.
Voilà. Très bien. Bon, et c'est où ? C'est à Montflour. Hein.
Montflour, donc c'est à peu près 15 km de Laval, donc très proche de l'autoroute. Hein, on sort de l'autoroute, on est à 8 km du musée donc, et des gîtes autour pour pouvoir loger sans problème.
Et puis c'est pas très loin de Lille, ça fait 460 km
voilà,
à peu près. On peut le faire sur un week-end.
Voilà,
très bien. Il suffit de téléphoner à Jean-Luc.
Voilà, et Jean-Luc peut me contacter aussi
réserve.
Pour que je vous donne aussi des infos.
Très bien. Voilà. On termine cette émission. On va revenir un petit peu bien sur l'île de Man, sur cette fameuse course de Tourist Trophy. La course reine, enfin la course mythique, c'est le Seigneur Tété. Hein.
Seigneur Tété.
C'est ouais. Ça, c'est bien ça.
C'est ça.
Et qui a gagné?
Ben, c'est Michael Dunlop. Michael Dunlop, il a gagné sur le
circuit. Ça fait des années qu'il gagne.
Ouais,
il doit connaître le circuit
par cœur.
Par cœur. Il serait capable de le faire les yeux bondés, peut-être.
Peut-être. Je vais pas demander. On a essayé de l'approcher, mais c'est vrai qu'il est un peu sauvage. Donc
il est un peu sauvage.
Ouais. Ouais.
Par contre, le rival Chitsan a eu un problème.
Ouais. Drapeau rouge au bout de deux tours, effectivement, ouais. Il s'est cassé le fémur.
Ces deux pilotes se mènent un petit peu se foutent la pression là.
C'est la guerre entre les deux.
Entre les deux hein.
C'est la guerre.
Avec un avantage.
J'ai vu des propos là dans la presse, sur Internet.
Bon,
donc lui, il a eu un problème, mais il s'est cassé le fémur.
Il s'est cassé le fémur dans la montagne, ouais. Ouais. Donc du coup, la course super Seigneur Titi a été raccourci
de 4 tours.
À 4 tours, ouais. C'est ça. Donc ils sont refait un second départ et puis ils sont repartis. Et là, c'est Michael Dunlop qui a pris la tête.
Avec la nouvelle Suzuki, d'ailleurs. Hein.
Ouais.
La nouvelle GSX-R.
Il y a une marque qui n'a pas eu de chance, c'est Honda.
Ah oui, voilà, Honda, avec le forfait de John McGuinness.
Ah, McGuinness, il s'est blessé
à la Nord-Ouest 200.
Ouais. Et, en Irlande.
Ouais. Et Guy Martin, qui a préféré ne pas prendre de risques parce que il s'était cassé la gueule donc en première course Superbike. Il a pris la course à la Lightweight. Donc les petits twin légers. Mais par contre, il a décidé de ne pas prendre le départ de la Seigneur Titi parce qu'il ne se sentait pas en confiance sur la Honda.
Ouais. Il y a une course aussi de moto électrique.
Ouais.
Zéro. Ça s'appelle Zéro et Trick.
Titi Zéro.
Titi Zéro.
Et c'est Bruce Anstey qui a.
C'est bien. C'est bruyant.
Ah, c'est bruyant. Problème, faut avoir un casque.
Très bien. Ok. Le 23 juin, vous faites quoi au soir? Vendredi 23, c'est vendredi prochain. Là.
On va aller faire un tour pour aller voir Terre Propice, là, le Luc Cottrell.
Ah. Voilà, donc c'est l'occasion de sa sortie de son DVD. Luc Cottrell vous invite à la présentation de son incroyable aventure en Afrique au guidon de sa BMW 1150 GS. C'est gratuit, c'est au restaurant Le Zen, village moto de Seclin, vendredi 23 juin à partir de 19h.
Et quelqu'un coûte pas les partenaires de cette opération, hein, je rappelle, voilà. Donc à partir de 19h, vendredi prochain, là.
C'est
gratuit. Voilà, merci Julien, merci Aurélien.
L'émission
se termine, un peu court quand même. On avait tout le monde, un programme encore chargé aujourd'hui. Merci Christine pour l'idée
merci.
De balade. Hein. Enfin, vraiment, fantastique. Hein. Vraiment, moi je pense que je vais y aller. Et alors Laurent, écoute, c'était fabuleux aujourd'hui.
Merci, tu es très gentil avec moi. À la semaine prochaine.
Bonne pour dimanche et bonne fête de père.